VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le président Kabila doit se prononcer mercredi sur son avenir politique à 6 mois des élections. En Zambie, ouverture du procès de l'ancien ministre Chishimba Kambwili, très critique de l'actuel président Edgar Lungu. Nouvelle grève des agents des finances au Burkina. L'ONU dénonce la politique migratoire des États-Unis. Également, dans un peu plus de 10 minutes, le journal de la Coupe du Monde. Mais d'abord, le journal. Après le report du sommet de Luanda, qui devait discuter des élections en RDC, à Kinshasa s'ouvre ce mercredi une importante session extraordinaire du Parlement. Le président Joseph Kabila devra fixer l'opinion sur son avenir politique à 6 mois des élections. Le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre partenaire à Kinshasa.
Annoncé pour le dimanche 17 juin 2018, le sommet de Luanda qui devait réunir les chefs d'État angolais, gabonais, sud-africains, rwandais et congolais de Brazzaville autour du président Kabila pour évoquer la situation en RDC à 6 mois des élections n'a finalement pas eu lieu. Aucune raison n'a été officiellement avancée par Kinshasa ni par Luanda. Mais ce lundi matin, le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Tshiokitundu, s'est envolé pour la capitale angolaise afin d'y rencontrer le président Lourenço. Ce sommet de la région est reporté alors qu'à Kinshasa s'ouvre au Parlement ce mercredi 20 juin une importante session extraordinaire qui verra notamment le président Kabila s'exprimer devant députés et sénateurs réunis en congrès. Il sera également examiné au cours de cette même session la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus, alors qu'à un mois du début du dépôt des candidatures à la présidentielle du 23 décembre 2018, la question sur le probable troisième mandat de Joseph Kabila se pose toujours. L'opposition et la Conférence épiscopale nationale du Congo lui demandent notamment de dire clairement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La justice congolaise a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant en exil Moïse Katumbi. Interpellé à l'aéroport de Bruxelles avec un passeport falsifié la semaine dernière, Moïse Katumbi a été autorisé à rester en Belgique pour y régulariser sa situation. L'opposant s'est défendu en accusant le régime du président Joseph Kabila d'instrumentaliser les services de l'État congolais. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante estime que 3 millions de personnes en âge de voter ne sont pas inscrites sur les listes électorales, qui comptent actuellement 6,3 millions d'inscrits. Le recensement va durer jusqu'à dimanche sur plus de 10 000 sites à travers le pays. Au Mali, Kanté Diébou Ndiaye, une femme d'affaires, s'est lancée aujourd'hui dans la course à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain, où elle affrontera une vingtaine d'hommes. Elle souhaite sortir les femmes de leur isolement dans ce pays du Sahel. Moussa Mara, l'ancien ministre qui avait annoncé sa candidature lui en avril, s'est désisté ce week-end pour donner, a-t-il dit, une véritable chance à l'alternance. Kala Ankoraou, le ministre nigérien des Affaires étrangères, est en déplacement à Bruxelles pour plaider la cause du G5 Sahel. Le ministre a déploré que les financements promis tardent à être débloqués lors d'un point de presse avec la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Au Nigeria, le bilan des attentats de l'Aïd a été revu à la hausse. 43 personnes ont été tuées ce week-end dans les attentats suicides qui ont ensanglanté la ville de Damboa, située dans l'état de Borno. En Zambie, ouverture du procès de l'ancien ministre Chishimba Kambwili, très critique de l'actuel président Edgar Lungu. Il a nié les accusations de fraude devant un tribunal de Lusaka. Le point avec Idriss Fall.
Je comprends les charges lancées contre moi et je les dément catégoriquement, a répondu Chishimba Kambwili au juge après lecture des 39 chefs d'accusation retenus contre lui. Son procès doit reprendre le 3 septembre. Arrêté en mars dernier, il est accusé d'avoir acquis des propriétés avec des fonds d'origine suspecte et obtenu des avantages financiers indus. ex-ministre de la Communication et des Affaires étrangères, M. Kam Willy, 48 ans, a été limogé en novembre 2016 par le président Lungu sur la base de soupçons de malversation. Député du parti au pouvoir, il n'a jamais cessé de dénoncer la corruption dans le pays. Le président Edgar Lungu, arrivé au pouvoir en 2015, est accusé de dérive autoritaire par ses adversaires qui lui reprochent l'incarcération pendant 4 mois de son principal rival, Hakainde Hichilema, et l'instauration pendant 3 mois de l'état d'urgence en 2017.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Inadmissible et cruel, c'est ainsi que dénonce le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme la politique américaine de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Bagasekoura.
Penser qu'un État puisse chercher à dissuader des parents en infligeant des mauvais traitements à des enfants est inadmissible, a affirmé Zeid Raad al-Hussein, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Il a appelé l'administration Trump à stopper immédiatement cette pratique qu'il a qualifiée de cruelle. À Washington, la première dame Melania Trump a dit dimanche détester voir des enfants séparés de leur famille et espérer que les deux camps du Congrès pourront enfin se mettre d'accord sur une réforme réussie des lois d'immigration. L'administration américaine a révélé vendredi que sa nouvelle politique de tolérance zéro à la frontière avec le Mexique a conduit depuis mi-avril 2000 enfants à être séparés de leurs parents, entrés illégalement aux États-Unis. L'opposition démocrate s'est révoltée. Le malaise gagne les rangs de la majorité républicaine.
Jeff Sessions, le ministre américain de la Justice, a défendu aujourd'hui la politique de tolérance zéro de l'administration Trump, en vertu de laquelle des enfants ont été séparés de leurs parents sans papier, en assurant vouloir éviter l'anarchie dans le pays. Et puis en Espagne, près de la moitié des 630 migrants secourus par l'Aquarius et arrivés hier dans le port de Valence veulent demander l'asile en France. Le gouvernement espagnol avait annoncé samedi avoir accepté la proposition de la France d'accueillir une partie des migrants de l'Aquarius, initialement refusée par l'Italie et par Malte. En Afghanistan, une manifestation pour la paix a eu lieu à Kaboul quelques heures après l'expiration d'un cessez-le-feu des talibans qui ont repris les hostilités. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les manifestants sont arrivés dans la capitale afghane au cri de « Nous voulons la paix, cessez les combats ». Quelques heures plus tôt, les talibans ont rejeté des appels du gouvernement, de la communauté internationale et de nombreux Afghans à prolonger le cessez-le-feu de 3 jours. Ils avaient observé une trêve pendant le ramadan qui a expiré dimanche. Les talibans ont repris leurs attaques et réitéré leur exigence de pourparlers directs avec les États-Unis et le retrait des forces étrangères. Leurs combattants ont attaqué les forces de sécurité dans plusieurs provinces du sud et de l'est, tuant un gouverneur et blessant son garde du corps. Mohamed Radmanesh, porte-parole du ministère de la Défense, a fait état de combats ayant fait 12 soldats tués ou blessés depuis la fin du cessez-le-feu. Il s'agissait du premier cessez-le-feu formel à l'échelle nationale depuis l'invasion américaine de 2001. Le gouvernement a annoncé une prolongation de 10 jours, tout en précisant que les forces de sécurité se défendraient si elles étaient attaquées.
En Syrie, des militaires turcs ont commencé à patrouiller à proximité de la ville de Minbej, tenue par une milice kurde, dans le cadre d'un accord entre Ankara et Washington visant à apaiser les tensions. À 30 km de la frontière turque, la ville de Minbej est contrôlée par la coalition arabo-kurde, les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington contre le groupe État islamique. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a lancé une nouvelle polémique aujourd'hui en annonçant le prochain recensement des Roms vivant en Italie afin éventuellement d'expulser ceux de nationalité étrangère. Et puis l'aile la plus à droite du gouvernement allemand, soutenue par Donald Trump, a fixé un ultimatum de 2 semaines à Angela Merkel pour réduire au niveau européen le nombre d'arrivées de migrants ou prendre le risque d'une crise politique majeure. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et maintenant, le journal du mondial, présenté ce soir par Yacouba Ouedraogo.
Bonjour.
bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal de la Coupe du Monde Russie 2018. Entrée en lice réussie pour la Belgique. Longtemps accroché, les Diables Rouges ont monté d'un cran en deuxième période et fini par faire plier le Panama 3-0. Le Panama qui disputait le premier match de la Coupe du Monde de son histoire. Romelu Lukaku a inscrit un doublé en quelques minutes, 69e et 75e. Auparavant, Dwight Mertens avait ouvert le score d'une superbe volée lobée à la 47e. Bien avant, la Suède, pas attendue en tête du groupe F, est pourtant bien première de ce groupe après sa victoire 1-0 devant la Corée du Sud. L'Allemagne, championne en titre et favorite du groupe, en tout cas avant le début de la compétition, est deuxième. La Mannschaft a très mal commencé son mondial en s'inclinant hier lors de sa première rencontre face au Mexique, 0-1. Les Allemands battus sur un tir puissant du droit de Lozano à la 35e, 4 ans après leur titre de 2014. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
L'événement de ce dimanche dans la poule F est la défaite surprise du champion du monde en titre devant une excellente équipe du Mexique que personne ne voyait venir malgré son 14e rang au classement FIFA. Pourtant, tous les clignotants étaient ouverts pour une équipe allemande au sommet de son art. D'abord, la régularité au plus haut niveau d'une Mannschaft qui s'invite régulièrement dans le carré d'as d'une compétition où elle a disputé 8 finales, dont 4 gagnées, une performance que seul le Brésil peut lui contester. Les arguments de l'Allemagne sont connus. Solidité, puissance, mental, réalisme, esprit d'équipe et collectif irréprochable. Les Allemands se sont en plus investis avec succès dans la formation, garantissant une relève spontanée, ce qui explique leur récente victoire en Coupe des Confédérations, obtenue avec de seconds couteaux. Mais pour une fois, la dangerosité des oppositions de style a joué en défaveur de la Mannschaft dans cette rencontre inaugurale de la poule F. Les Mexicains ayant réussi à imposer leur technique, leur vivacité et leur capacité de jaillissement, le temps d'un match où les couloirs allemands n'ont pas fonctionné, le scénario de la partie étant inattendu. Le champion du monde, qui perd une bataille mais pas la guerre, a encore son destin entre ses mains, comme son prédécesseur argentin, battu par le Cameroun en match d'ouverture en 1990, mais pourtant en finale la même année. La morale à retenir, c'est que la Coupe du Monde nous revient avec son lot d'émotions et de surprises pour notre plus grande joie. À demain.
Prochain adversaire de la Mannschaft, la Suède et la Corée du Sud, deux adversaires à la portée de l'Allemagne qui, si elle terminait deuxième du groupe, pourrait affronter le Brésil pour un bouillant huitième de finale. Les Brésiliens seraient dominateurs hier à Rostov, mais accrochés par la Suisse 1-1 dans le match phare du groupe E. Dans ce groupe E, justement, la Serbie est première grâce à sa victoire 1-0 sur le Costa Rica. Demain mardi, le dernier pays africain entre en lice. Il s'agit du Sénégal de Sadio Mané qui nourrit de grandes ambitions, mais qui doit d'abord affronter la Pologne de Robert Lewandowski. Le Sénégal revient en Coupe du Monde 16 ans après sa dernière participation. Amdine Sy, notre correspondant présentement en Russie, fait le point.
Pour leur entrée en matière, les Lions de la Teranga essaieront de faire aussi bien que la génération dorée des Erasmus qui avait atteint les quarts de finale en 2002. Et cela passe par un bon résultat face à la Pologne. Une mission qui s'annonce difficile car les points d'aller Auro en face d'une très bonne formation polonaise qui a réalisé des éliminatoires presque parfaits grâce à son attaquant vedette Robert Lewandowski, auteur de 16 buts. Mais la sélection sénégalaise qui compte remporter cette première confrontation de l'histoire entre ces deux pays visera une nouvelle fois sur Sadio Mané qui est la nouvelle star du football sénégalais après sa brillante saison à Liverpool. En tout cas, le duel entre Sénégalais et Polonais s'annonce palpitant. Moscou, Amédine Sy, Véo Afrique.
Le sélectionneur des Lions de la Teranga mesure l'importance de cette première sortie de ses poulains, Aliou Cissé.
L'essentiel, effectivement, pour nous, c'est ce match de demain. On s'est bien préparé. Maintenant, rentrer dans une compétition, le premier match, tout le monde le sait, c'est important. Même si ce n'est pas décisif, c'est très important. Donc nous avons envie de rentrer dans cette compétition par la belle des manières, c'est-à-dire faire un meilleur résultat, un bon résultat contre une très belle équipe polonaise. Le Sénégal, tout le monde connaît. On fait partie en tout cas des meilleures équipes africaines. On a des arguments à faire valoir, donc nous venons ici avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. Donc ce n'est pas une question d'individualité. Donc on est ensemble avec cette équipe depuis 3 ans. Chaque joueur, je les connais, vous pouvez vous faire confiance, il y aura une très belle équipe.
Aliou Cissé qui s'exprimait ici au micro d'Amdine Sy. Dans l'autre match de ce groupe, toujours demain mardi, la Colombie jouera contre le Japon à 12h temps universel et à 18h, l'Égypte fera face au pays hôte, la Russie, pour sa deuxième sortie. Voilà donc qui met fin à ce journal de la Coupe du Monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Burkina, les agents du ministère des Finances ont repris ce lundi leur mouvement de grève qui doit durer toute la semaine. Une situation qui joue sur l'économie du pays car les impôts sont mal collectés. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, de recruter des volontaires et des retraités pour remplacer les agents qui sont en grève. Bagassi Courage joint à Ouagadougou Mathias Kadiogo, porte-parole de la coordination des syndicats du ministère des Finances.
Il y a 7 points pour quels points on a ajouté 2. Il y a une question sur les retirées de cotisations syndicales mutualistes sur les avantages du moins de motivation financière des travailleurs. Il y a la question de la dotation de carburant, la question du respect des protocoles d'accord signés entre les syndicats et le gouvernement et de par le passé et qui peinent à être appliqués. Nous avons la question du relogement des travailleurs du ministère qui sont au sein du ministère dans le bâtiment R+4 que le gouvernement n'a toujours pas retiré. Nous avons la question des réformes, la transformation de la question des impôts et de la douane en ETE. Voilà, que le gouvernement refuse de laisser tomber. Le deuxième point que vous venez d'ajouter concerne la remise à leur poste des personnels qui assuraient des fonctions de société et qui ont été élevés pour faire des grèves.
Les agents qui ont été relevés sont des agents qui ont été nommés par le gouvernement, qui a donc le droit de les relever.
Oui, le gouvernement a le droit de les relever et le gouvernement a le devoir aussi de les nommer parce que ce sont des agents qui n'agissent pas sur un terrain politique, ils sont sur un terrain technique et ils occupent des responsabilités techniques. Et ils n'ont fait que faire usage d'un droit constitutionnel, voilà, qui leur a accordé le droit de grève. Il n'y a aucune disposition dans la législation burkinabé qui interdit un responsable nommé d'aller en grève pour défendre ses intérêts professionnels.
Et il y avait une conférence nationale la semaine dernière. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas apporté vos points de revendication à cette conférence-là?
Moi, nous avons estimé que le format voulu par le gouvernement et ne nous convenait pas. Et nous avons fait nos observations et nos propositions au gouvernement qui a décidé de les prendre en compte. Nous estimons qu'il n'est pas logique et il n'est pas judicieux pour un employeur d'asseoir des personnes qui n'ont rien à voir avec les employés pour discuter de la rémunération de ses employés. Quand on assoit les activistes de la société civile à des agriculteurs, des religieux, des coutumiers pour discuter des rémunérations des agents de la fonction publique, vous imaginez ce que ça fait, ça nous donne du chagrin.
La dernière information qu'on reçoit, c'est que le gouvernement a décidé de faire des recrutements, de retraités, de volontaires pour vous remplacer si vous continuez la grève.
Mais c'est un non-événement parce que les agents qui refusent de travailler, ils observent leurs droits constitutionnels de gréver. Donc, si le gouvernement estime que les retraités sont encore opérationnels, ce qu'on a laissé pour qu'ils aient se reposer, si du coup, selon le gouvernement, estime qu'ils sont opérationnels et qu'ils peuvent relever des soucis, alors qu'ils s'aventurent sur le terrain. Nous sommes là et nous pensons que le gouvernement a le devoir de prendre des mesures qui vont consolider la cohésion sociale au Burkina Faso.
Mathias Kadiogo, porte-parole de la coordination des syndicats du ministère des Finances.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Une journée sans coupure électrique actuellement au Bénin relève du miracle. Les problèmes énergétiques semblent narguer la promesse électorale de Patrice Talon d'en finir définitivement avec le délestage en moins de 2 ans de gestion du pouvoir. Seule alternative aujourd'hui, les énergies renouvelables. Grâce à un financement important américain, le Millennium Challenge Account s'active déjà sur le terrain pour une électrification hors réseau des ménages et autres qui le désirent. Reportage à Cotonou de notre correspondante Ginette Fleur-Adandé.
Au Bénin, les populations peinent toujours à se connecter comme il le faut au réseau conventionnel de fourniture d'électricité. Conséquence, beaucoup continuent de se plaindre de ces coupures intempestives qui peuvent durer 12 heures par jour.
Actuellement, je suis en train de travailler, il y a coupure, il y a ma télévision qui est gâtée. Vous avez une facture de 60 000 francs, maintenant, qui a été délestage, alors qu'avant, lorsque la coupure n'était pas, c'était déjà 60 000.
Le Bénin, à l'instar de bien du pays de la sous-région, dispose d'un climat favorable à la promotion des énergies renouvelables. Pour Placide Clédio, climatologue, enseignant-chercheur à l'Université du Bénin, les énergies renouvelables restent la seule chance pour le Bénin de vaincre la crise énergétique qui résiste à toute stratégie.
Notre politique énergétique doit être accentuée sur les énergies renouvelables. Et c'est la chance pour l'Afrique aujourd'hui d'être expert maintenant dans les énergies renouvelables pour dépasser les autres. Dans le soleil et à partir de nos déchets, on peut produire maintenant le gaz. Nous avons aussi l'énergie éolienne qu'on peut vraiment exploiter.
À l'ouverture d'un récent atelier international sur les énergies renouvelables, plusieurs acteurs du secteur ont rappelé que seulement 5% des Béninois des zones rurales ont accès à l'énergie électrique, pendant que ceux des grandes villes se battent contre les méfaits du délestage sauvage. Et c'est en cela que le Millennium Challenge compte reste une aubaine avec son projet d'électrification hors réseau. Les premières installations solaires au Bénin remontent à plus de 20 ans. Plus besoin de sensibiliser les populations sur la nécessité de recourir à ce type d'électrification. D'ailleurs, le secteur engendre déjà assez de personnes formées pour répondre aux besoins du marché à travers l'installation de panneaux solaires photovoltaïques à usage domestique. C'est le cas de ces jeunes femmes déscolarisées, femmes au foyer et vivant dans le nord du Bénin et qui, avec le soutien des Nations Unies, ont bénéficié d'une formation qui fait d'elles des spécialistes en matière d'installation de panneaux solaires et autres. Ismène Raminezoumenou, présidente de l'ONG Fétine Rinda.
Elles ont négocié des contrats auprès de ménages non électrifiés et elles ont déjà installé des systèmes solaires domestiques. Au cours de leurs travaux pratiques, les filles ont eu à dépanner tous les lampadaires de la ville de Parakou. Et elles ont eu également à démarcher des clients qui sont des ménages non électrifiés où elles ont installé aussi des kits solaires de 150 watts crête. Donc je peux dire déjà que ces filles sont déjà totalement opérationnelles.
Le Millennium Challenge compte encourage l'implication du secteur privé pour l'amélioration du réseau électrique. Il faut préciser que les États-Unis envisagent d'investir 46 millions de dollars dans le secteur de l'énergie hors réseau au profit des Béninois dont l'accès à l'électricité reste toujours un parcours du combattant. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La Guinée a envoyé du personnel médical en RDC à la demande de l'OMS. Et pour, dit Conakry, renvoyer l'ascenseur à ce pays qui fait face à la 9e épidémie d'Ebola de son histoire. Mais à Conakry, on suit de près la situation à RDC, 2 ans après la fin de l'épidémie, dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient fait plus de 11 000 morts, dont 2500 en Guinée. Reportage à Conakry d'Abdourahmane Dia.
Conakry, la capitale guinéenne, s'est relevée du pire épisode de son histoire récente. La ville veut oublier Ebola et peu de gens veulent même prononcer le mot. Le marché de Kaloum, juste après la pluie, grue de monde comme d'habitude. Ce jeune qui a accepté de nous parler nous dit que les habitants ont changé leurs habitudes grâce notamment à la sensibilisation.
Oui, les populations aussi sont là à respecter les règles d'hygiène. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit au marché, même les gens sont là après, à quand même à suivre de près. C'est une maladie qui est tellement virale, ce n'est pas facile. Mais c'est le fait que c'est éradiqué là. On ne veut plus maintenant que c'est récidive encore en Guinée.
Et cette bataille contre le retour d'Ebola, elle est dirigée par un homme. Le docteur Sakouba Keïta, que l'on surnomme ici Monsieur Ebola, le directeur du Centre national de sécurité sanitaire, nous dit que son pays a appris de cette première épidémie qui a sévi pendant plus de 2 ans.
Il n'y a pas une préparation qu'on peut faire d'un jour à l'autre, mais nous continuerons à nous préparer au fur et à mesure qu'on a de nouvelles connaissances sur cette maladie, nous continuerons à nous préparer afin que, si même elle survenait en Guinée, qu'on puisse la circonscrire en un temps record. Parce que la RDC, à sa 9e, et la Guinée n'a reçu qu'une seule épidémie. Donc nous pensons qu'il y a des probabilités que cette maladie revienne en Guinée et nous nous préparons en conséquence.
En Guinée, plus de 8000 personnes ont été vaccinées contre Ebola, ce même vaccin non encore homologué par l'OMS et utilisé en République démocratique du Congo. Mais pour le docteur Sakouba Keïta, son efficacité ne fait pas l'ombre d'un doute.
Non seulement nous on a su l'efficacité sur le plan épidémiologique par sa contribution à l'arrêt de la transmission de la maladie à venir se rouler en Guinée, mais aussi par la publication des résultats des scientifiques qui ont déjà publié cela et montré que ça a une efficacité autour de plus de 95%, ce qui fait qu'aujourd'hui ce vaccin est en première ligne dans nos activités, dans nos mécanismes de riposte contre cette maladie.
Les autorités sanitaires guinéennes sont en état d'alerte et le pays semble mieux préparé en termes d'infrastructures. Les travaux d'agrandissement de l'hôpital Donka de Conakry battent leur plein. Abdourahmane Dia, VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Wojtek Czurniak. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, un seul site internet, VOA Afrique et voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.